sur les formulaires et la manière malicieuse dont les gens ont réussi à remettre du commun là-dedans. Du coup, concrètement, enfin, j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire.
Ça a été cinq jours de travail absolument titanesque par une équipe de 12 personnes. Où en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toute la zone, qui y vivait, qui voulait bien participer à ce pari, parce qu'il n'était pas question de faire rentrer dans ce genre de pari des gens qui ne voulaient pas et ne s'y retrouvaient pas. Et en fait, l'idée, c'était très prosaïquement, sur chaque fiche, dire, alors voilà, il y a machin qui a telle activité, et ces activités, elles sont sur telle parcelle, telle parcelle, telle parcelle, telle parcelle. Il s'avère que sur ces parcelles-là, il y avait des cabanes. Donc l'idée, c'était de couvrir les gens aussi, de pouvoir dire, parce que ce qu'elle avait dit, c'est si vous signez, alors on ne détruira pas. Et donc le pari, c'était de se dire, c'est risqué, mais et donc de faire ça. Mais au lieu de dire, il y a un nom, une activité, quatre parcelles, ce qu'on a fait, c'était de dire, voilà, le projet mouton de machin truc. Mais il est en fait sur les mêmes parcelles que le projet verger de trucs bidules, parce qu'en fait c'est du sylvopastoralisme. Donc en fait c'était aussi une manière de montrer que cette vision complètement fragmentée et cloisonnée d'imaginer l'agriculture et l'aménagement du territoire, il est complètement absurde. Donc c'était à chaque fois l'idée de dire les mêmes parcelles, en fait elles correspondent à divers projets. Parce qu'on n'est pas sur un truc... Parce que c'est ça aussi la logique d'agrandissement des fermes, c'est pour pouvoir faire des rotations sans surtout avoir à partager avec qui que ce soit, il faut toujours avoir des fermes plus grandes. Donc comme ça, on peut faire les rotations qu'il faut, parce que sinon, on se retrouve avec des sols qui sont complètement, complètement érodés. Là, en fait, l'idée, c'est de dire ça, on s'organise entre nous pour le faire. Et donc, c'était aussi pour pouvoir couvrir les cabanes. Et le fait est que... Alors, il y en avait déjà 40 qui avaient été détruites hein, quand on a fait ça. Donc, mais en fait, les quelques personnes qui ont refusé de faire ce pari-là, le gouvernement est venu au mois de juin et a détruit les cabanes. Je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre du rappel à l'ordre hein, qui était sans équivoque. Et que, ben voilà, moi, personnellement, je trouve ça vraiment tragique. Mais c'est ça qui a fait que c'est aussi ça qui nous a poussé à faire ce pari-là. C'est-à-dire, en fait, là, le pari de la sécession absolue, c'est 4500 flics, 11000 grenades. Ils n'ont pas l'air de vouloir. Hein. Donc on s'est dit, on va tenter autrement, en se disant, c'est comme ça qu'on peut pérenniser. Parce que sinon, le choix qui nous semblait... En tout cas, moi, je suis persuadée que le choix qui nous était échu, c'était de pouvoir effectivement faire le pari de aucune négociation, mais qu'à ce moment-là, c'était l'écrasement, et qu'on se retrouvait tous éparpillés à refaire les sauts de puce de lutte en lutte, de se retrouver dans divers squats et luttes en France, et que ce bocage qui avait été sauvé du bétonnage, il se retrouvait réattribué à l'agriculture industrielle, ou encore pire, à de la compensation écologique pour d'autres infrastructures du même type que l'aéroport. Moi, je savais que je faisais partie des gens pour qui c'était intolérable, cette pensée-là, que ce qui avait été construit pendant toutes ces années, il fallait trouver des moyens de leur donner une chance de perdurer. Et donc, c'est un pari. Hein. Mais c'est, techniquement, c'est comme ça qu'on s'y est.
Oui, à un moment donné, vous avez parlé de la partie est de la zone qui avait été plutôt consacrée donc au délogement par les CRS, qui correspondait aussi à l'endroit où il y avait le plus de conflits d'usage. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce parallèle?
Parce que justement, c'était plutôt autour de cette zone-là. Vous voyez bien hein, que sur un territoire, c'est toujours compliqué. Enfin, mais c'était plutôt autour de la zone est. Qui avait des approches plus primitivistes, même si c'est aussi un peu caricatural comme terme, et de gens qui, par exemple, prenaient l'absence de motorisation absolue, l'antispécisme assez fort, la sécession totale, et qui donc avaient souvent des conflits d'usage avec des paysans locaux, notamment. Parce que comme ils ne voulaient pas du tout d'engins motorisés, Il y avait des blocages d'entrée de champ pour qu'il n'y ait pas d'entrée de tracteur. Enfin, la route des chicanes était régulièrement rebloquée pour que les tracteurs et les véhicules ne passent pas, ce qui rendait fou une partie du mouvement. Donc, c'était beaucoup autour de ces approches-là qu'il y avait. Parce qu'en fait, elles étaient rendues irréconciliables. Pas sûr qu'elles le soient nécessairement, mais elles étaient rendues irréconciliables, et donc c'était très régulièrement qu'il y avait des conflits, alors que à d'autres endroits, c'était moins frontal, disons, les conflits d'usage.
J'avais une autre question sur le rapport entre sensibilité et commun. Vous avez terminé votre histoire par une histoire d'amour, sauf qu'on n'a pas la fin de l'histoire d'amour. Il y a toujours cette histoire de que les histoires d'amour finissent un jour. Et là.
Mais toute la question est là.
Voilà, et donc la question, c'est la sensibilité peut être motrice dans la construction du commun, mais elle est aussi potentiellement peut-être une fragilité potentielle en tout cas. C'est-à-dire que quand on a des approches rationnelles, très cadrées, très froides, ça saisit mal, hein. C'est l'idée qu'on peut avoir une relation finalement plus sur la durée, alors que des histoires chaudes sont des histoires finalement qui nous engagent tellement que finalement elles peuvent être fragiles. Elles peuvent être très fortes, mais en même temps plus fragiles que d'autres qui seraient construites de manière où finalement on s'engage. Comment on s'engage dans l'espace public, version classique, hein, c'est-à-dire finalement un engagement mesuré qui nous permet d'avoir un quant à soi dans lequel on peut développer des choses qu'on ne pourrait pas développer de manière commune. Voilà, donc c'est cette question-là sur le rapport entre sensibilité et sur commun.
Bah, déjà, je pense que je trouve que c'est une vision de la vie extrêmement triste, personnellement, mais c'est vraiment quelque chose qui est. À côté, enfin, de dire que la rationalité, la froideur permet de durer alors que le sensible ne le permet pas, c'est quelque chose, je pense que je suis en fondamental désaccord avec ça. Je pense qu'en plus, la sensibilité dont je parle, c'est pas uniquement l'attachement. Enfin, ça n'est pas juste un truc de j'aime bien vivre là, c'est en fait une vraie construction sensible d'appartenir à un territoire, d'y être. Et en fait, cette espèce de cycle de j'en fais partie parce que, et j'en prends soin, et donc je l'aime, donc je le défends, et comme je l'ai défendu, j'en prends soin parce que, et que ça, je ne pense pas que ce soit une base qui rende fragile parce que. Parce que un peu échauffé par la passion, je pense qu'on peut avoir une démarche sensible qui soit profondément ancrée, parce que justement les points d'ancrage dans les communs sont beaucoup plus profonds et multiples qu'une approche purement raisonnée et raisonnable. Et qu'en fait, moi je suis persuadée que lorsqu'on sait et lorsqu'on sent pourquoi on fait quelque chose, on a beaucoup plus la capacité à durer dans le temps, et qu'en fait les communs qui ont fait leur preuve dans le monde ne sont pas des communs froids, c'est des vrais communs. Enfin, toutes les communautés autochtones qui ont tant à nous apprendre sur comment on fait vivre des communs sur des générations et des générations et des générations, c'est des approches profondément sensibles, c'est des gens qui se sentent appartenir à leur territoire. Il n'y a pas ce truc de... D'ailleurs, et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais qui est très très bien expliqué par Illich dans un article super court qui s'appelle Le silence est un commun, et qui dit en fait, avec les enclosures, on est passé d'une notion de l'environnement comme étant ce dont on fait partie, à l'environnement comme pure ressource. Et c'est à partir du moment où on a l'environnement comme pure ressource qu'en gros, pour lui, ça tout commence à se déliter. Et que moi, c'est de ça dont je parle quand je parle d'une approche sensible. C'est qu'en fait, on en fait partie, et ça fait partie de soi. Ça devient beaucoup plus qu'un truc purement idéologique. C'est aussi idéologique. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette approche politique, elle devient colorée de quelque chose qui justement lui donne un ancrage. Donc moi, je pense pas du tout que c'est une fragilité. Je pense que c'est une force phénoménale. Et je pense que Lazad l'a montré. C'est qu'en fait, on ne défend pas avec une véhémence pareille. Et on ne contamine pas. Parce qu'en fait, on n'a pas convaincu les gens. En fait. Ce qui s'est passé avec Lazad, c'était pas juste un processus d'aller convaincre les gens qu'il fallait nous rejoindre, que c'était bien. Il y avait ça. Je pense qu'il y a une passion, il y a un imaginaire, il y a un horizon possible qui a littéralement contaminé l'imaginaire des gens. Et que nous, on voit bien, enfin, moi je fais partie de l'équipe qui s'occupe de fonds dotation. Et donc, c'est tout à fait flagrant les messages que l'on reçoit avec des gens même qui font des dons de 20 euros et qui disent: mais vous vous rendez pas compte à quel point vous faites en sorte que ma vie continue à avoir un sens. Enfin, avec vraiment des messages qui vont jusque là. C'est: j'arrive à continuer à avoir ma vie à moi parce que je sais que vous existez. Et donc je pense que ça, c'est profondément sensible. C'est pas juste du truc purement rationnel, pas très rationnel comme commentaire. Et pourtant, c'est bien là.
Ouais, c'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense qu'il y a, enfin, sur donc, cette question des communs, bon, il y a un sujet qui n'est pas celui dont on traite aujourd'hui, mais qui est assez courant, qui est la question du patrimoine. Par exemple, Daniel Fabre, le dernier ouvrage collectif, un des ouvrages collectifs qui s'appelle Émotion patrimoniale, qui traite vraiment de toute cette dimension sensible et des sens aussi, enfin pas juste l'émotion, mais la question du sentiment, la question du ressenti, et notamment au niveau de l'environnement, du paysage et donc du territoire. Et donc la question du sujet qui n'est pas différencié de l'objet, donc dans la construction du commun, tout ça c'est vraiment quelque chose de très important que d'autres cultures mettent beaucoup en avant, notamment au Japon. Enfin voilà, ce sont des approches du commun dont on a peut-être moins l'habitude en Occident, mais qui sont mises à profit.